Bonjour à tous. Je m'excuse si je parle un peu du nez aujourd'hui, mais je suis bien bien enrhubé. J'ai eu l'occasion, l'année dernière et plus récemment, de prêcher à Dijon, dans l'église La Bonne Nouvelle, notre église sœur. Et j'ai été interpellé par un détail de leur pratique de la Sainte Cène. Lorsque le vin est distribué, comme chez nous, dans de petits gobelets, chacun garde son gobelet en attendant que tous soient servis, et alors tous le boivent ensemble. Ne connaissant pas cette coutume, moi j'ai bu mon gobelet tout de suite, dès qu'il m'a été présenté, et je me suis trouvé un peu bête parce que j'étais le seul à le faire. Toi aussi? Toi, ils t'ont fait le coup. Je me suis dit initialement qu'il s'agissait là que de coutumes, qui peuvent bien sûr varier d'une église à une autre. Mais à y bien réfléchir, il y a tout de même un élément symbolique à retirer, je pense, de cette pratique, et ce qu'on va regarder ensemble ce matin. Je vous propose de lire d'abord dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 10, verset 15. Première épître aux Corinthiens, chapitre 10, verset 15. Je lis dans la traduction dite du semeur. Je vous parle là comme à des gens raisonnables. Jugez vous-même de ce que je dis. La coupe de reconnaissance pour laquelle nous remercions Dieu ne signifie-t-elle pas que nous sommes au bénéfice du sacrifice du Christ qui a versé son sang pour nous? Et le pain que nous rompons ne signifie-t-il pas que nous sommes au bénéfice du corps du Christ offert pour nous? Comme il n'y a qu'un seul pain, nous tous, malgré notre grand nombre, nous ne formons qu'un seul corps, puisque nous partageons entre tous ce pain unique. Donc l'apôtre dit, jugez vous-même de ce que je dis. Il en appelle au jugement des Corinthiens, c'est-à-dire à leur jugement spirituel des choses, ce discernement que donne l'intelligence renouvelée par l'Esprit Saint. Et voici ce sur quoi l'apôtre appelle le jugement spirituel des Corinthiens. La coupe de vin pour laquelle nous rendons grâce nous rappelle que le sang de notre Seigneur Jésus-Christ a été versé en rémission de nos péchés. Car sans effusion de sang, il n'y a pas de rémission des péchés, comme nous le rappelle l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Et le pain que nous rompons et que nous partageons entre nous, nous rappelle son corps brisé pour nous. Et Paul rappelle aux Corinthiens que tous les rachetés du Seigneur sont au bénéfice de cette offrande, de cette mort, qui nous offre à nous la vie éternelle. Mais Paul insiste sur le fait que ce pain unique représente aussi le corps mystique de Christ, c'est-à-dire tous les chrétiens. Comme il n'y a qu'un seul pain, nous tous, malgré notre grand nombre, nous ne formons qu'un seul corps, puisque nous partageons entre tous ce pain unique. Paul avait appris sur le chemin de Damas, quand il a été arrêté par le Seigneur Jésus lui-même, alors qu'il se rendait dans cette ville, pour y faire arrêter les chrétiens qui y vivaient et les ramener à Jérusalem pour les faire punir, il avait entendu une voix venant du ciel, où Jésus siège désormais, qui lui a dit « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » C'est probablement là que Paul a compris qu'en persécutant les disciples du Christ, c'est au corps même du Seigneur qu'il s'attaquait, et qu'on ne maltraite pas impunément le corps du Christ. Même si l'apparence de ce corps au bout de 20 siècles donne plutôt une impression de morcellement, il n'y a cependant en réalité qu'un seul corps. Et c'est ce que dit ce verset 17. Et je pense qu'il nous faut garder ça en mémoire pour la lecture qui va suivre. Donc je vous propose de passer au chapitre suivant, chapitre 11. Au verset 2, donc 1 Corinthiens 11, verset 2, Paul dit... Je vous félicite de vous souvenir de moi en toute occasion et de maintenir fidèlement les traditions que je vous ai transmises. Deux lettres de l'apôtre Paul à l'église de Corinthe nous ont été conservées. On sait du fait d'une allusion de Paul lui-même dans sa deuxième épître qu'il a écrit au moins 3 lettres à cette église. Dans les 2 qui nous sont parvenues, Paul doit redresser de nombreuses pensées et pratiques qui ne sont pas correctes chez ses destinataires. Et cela est une mine d'enseignement pour nous aussi, car la nature humaine reste la même à travers les cultures et les siècles. Donc on a vu ce verset 2, Paul félicite les Corinthiens de maintenir d'une manière générale les traditions qu'il leur a transmises. Mais pour le point que Paul traite dans les versets qui vont suivre, il dit clairement en préambule qu'il ne saurait les féliciter. Je vous lis donc la suite. On va à partir du verset 17, hein, chapitre 11 toujours, verset 17. Puisque j'en suis aux directives, il me faut mentionner un point sur lequel je ne saurais vous féliciter. C'est que vos réunions, au lieu de contribuer à votre progrès, vous font devenir pire. Tout d'abord, j'entends dire que lorsque vous tenez une réunion, il y a parmi vous des divisions. J'incline à croire qu'il y a une part de vérité dans ce qu'on raconte. Sans doute faut-il qu'il y ait chez vous des divisions pour que les chrétiens qui ont fait leur preuve soient clairement reconnus au milieu de vous. Ainsi, lorsque vous vous réunissez, on ne peut vraiment pas appeler cela prendre le repas du Seigneur, car à peine êtes-vous à table que chacun s'empresse de manger ses propres provisions et l'on voit des gens manquer de nourriture pendant que d'autres s'enivrent. S'il ne s'agit que de manger et de boire, n'avez-vous pas vos maisons pour le faire? Ou bien traitez-vous avec mépris l'Église de Dieu et avez-vous l'intention d'humilier les membres pauvres de votre assemblée? Que puis-je vous dire? Vais-je vous féliciter? Certainement pas. Car voici la tradition que j'ai reçue du Seigneur et que je vous ai transmise. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré pour être mis à mort, prit du pain. Et après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le rompit en disant « Ceci est mon corps, il est pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, après le repas, il prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance scellée de mon sang. Faites ceci, toutes les fois que vous en boirez, en souvenir de moi. » Donc chaque fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur et ceci jusqu'à son retour. C'est pourquoi, quiconque mangerait le pain ou boirait de la coupe du Seigneur d'une manière indigne se rendrait coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine sérieusement lui-même et qu'alors il mange de ce pain et boive de cette coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner ce qu'est le corps se condamne lui-même en mangeant et en buvant ainsi. C'est pour cette raison qu'il y a parmi vous tant de malades et d'infirmes et qu'un certain nombre sont même morts. Si nous discernions ce que nous sommes, nous ne tomberions pas sous le jugement. Mais les jugements du Seigneur ont pour but de nous corriger afin que nous ne soyons pas condamnés avec le reste du monde. Ainsi donc, mes frères, lorsque vous réunissez pour le repas en commun, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a particulièrement faim, mais qu'il mange d'abord chez lui, afin que vos réunions n'attirent pas sur vous le jugement de Dieu. Voilà, jusque-là. Donc, vous voyez, Paul prend un ton très incisif. Au verset 17, vos réunions, au lieu de contribuer à votre progrès, vous font devenir pire. On voit ainsi au passage que les réunions chrétiennes doivent contribuer à notre progrès. Notre progrès dans la connaissance du Seigneur et la mise en œuvre de sa volonté, notamment dans notre pratique de la vie communautaire. Et l'élément péjoratif que Paul relève, c'est que les réunions des Corinthiens mettent en évidence, voire aggravent, leurs divisions. C'est évidemment tout à fait dommageable puisque Paul a souligné au chapitre précédent que le pain qu'ils partagent ensemble en souvenir du Seigneur est aussi le symbole de leur unité. Notez que Paul ne pense pas que ce soit le cas de tous les chrétiens de cette Église. Au verset 18, j'incline à croire qu'il y a une part de vérité dans ce qu'on raconte, donc une part seulement. Tous n'ont pas ce comportement détestable. Et Paul précise que ces divisions ont au moins le mérite de distinguer parmi eux ceux qui ont fait leur preuve, c'est-à-dire ceux dont le comportement correspond à ce que le Seigneur attend des siens. Dans les versets 20 à 22, on voit que les Corinthiens avaient donc des repas communautaires, au cours desquels ils prenaient la Sainte Cène. Mais Paul leur dit que leur manière de se conduire lors de ces repas ne peut vraiment pas s'appeler prendre le repas du Seigneur. Le verset 21 nous donne un aperçu de la façon dont cela se passait. À peine à table, on s'empressait de manger ses propres provisions, voire on s'enivrait, alors que d'autres n'avaient même pas de quoi manger. Ça peut nous paraître étrange, mais il faut imaginer le contexte culturel de l'époque. Les différences sociales étaient beaucoup plus marquées que maintenant. Il y avait les frères aisés, les familles aisées, qui avaient largement de quoi faire bonne chère, et qui peut-être voyaient dans ces repas communautaires une sorte de prolongement de ce qu'ils avaient pratiqué avant de connaître le Seigneur, c'est-à-dire plus ou moins des orgies sacrées pratiquées dans les temples grecs, où l'ivresse n'était pas nécessairement mal vue, mais un moyen de s'élever dans un état second, permettant la communication avec la divinité qu'on était venu honorer. Et puis il y avait beaucoup de frères pauvres, le plus souvent des esclaves, qui venaient participer au repas communautaire et à la scène du Seigneur après leur journée de travail, ne pouvant amener que le peu qu'ils avaient, voire même rien du tout. Et comme les autres s'étaient déjà goinfrés avant qu'ils n'arrivent, il ne restait plus grand-chose. On voit que les chrétiens de cette église n'avaient même pas l'idée de partager les victuailles qu'ils apportaient. On comprend que Paul s'indigne. S'il ne s'agit que de manger et boire, vous pouvez le faire chez vous. En réalité, par votre comportement, vous méprisez l'Église de Dieu et vous humiliez vos frères pauvres. Et Paul leur rappelle alors ce qu'il leur avait enseigné lorsqu'il était parmi eux concernant le repas du Seigneur. C'est l'objet des versets 23 à 26 que nous avons lus, où on retrouve l'institution de la Sainte Cène telle qu'elle est décrite à quelques détails près dans les évangiles dits synoptiques, c'est-à-dire Matthieu, Marc et Luc, puisque l'évangile de Jean, lui, ne mentionne pas la Sainte Cène. Ce n'est pas mon propos de commenter l'institution de la Sainte Cène. Je veux souligner le commentaire que Paul en fait à l'intention des Corinthiens. D'abord le verset 26. Donc, chaque fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à son retour. On aurait plus facilement compris, vous rappelez la mort du Seigneur. En effet, on se commémore par ce geste ce que le Seigneur a fait pour chacun de nous, et c'est un moment à la fois émouvant et solennel. Gardons-nous de toute familiarité vis-à-vis de la Sainte Cène. C'est de la mort de notre Seigneur qu'il s'agit. S'il n'avait pas accepté de mourir ainsi, nous serions pour toujours dans nos péchés et nous n'aurions pas plus d'espérance que les incrédules. Mais Paul a bien écrit « vous annoncez ». Il a utilisé le verbe grec « Katangelo » qui veut dire « annoncer » ou bien « dénoncer » ou encore « prédire ». C'est évidemment le sens « annoncer » qu'il faut retenir ici, hein, pour ce verbe. L'exégète suisse Frédéric Godet a écrit à ce sujet « Paul entend par l'utilisation de ce verbe la proclamation individuelle et collective de l'amour de Christ dans son sacrifice et l'efficace glorieuse de cet acte. Chacun confesse qu'il doit son salut à cette mort sanglante. » Mais quand on utilise ce verbe, on pense naturellement à ceux à qui cet événement est annoncé. Autrement dit, à qui sommes-nous censés annoncer la mort du Seigneur? Je pense que c'est d'abord à nos enfants, en particulier ceux qui n'ont pas encore reçu le Seigneur dans leur cœur. Dans les familles juives, lors du repas annuel de la Pâque, le fils aîné demandait au père de famille ce que signifiaient les rites de ce repas. L'agneau que l'on mangeait rôti avec des herbes amères, les pains sans levain, les coupes qu'on faisait passer parmi les convives. Et il est peut-être dommage que nos enfants n'assistent pas à la célébration de la Sainte Cène. Ce geste peut susciter des questions pertinentes de leur part, et cela peut être l'occasion de le leur expliquer et de contribuer à leur cheminement spirituel. Mais non seulement nos enfants, mais aussi à tout homme ou femme qui assiste à nos cultes. Paul évoque cela un peu plus loin en 1 Corinthiens 14, verset 24. Il écrit « Si tous prophétisent, et la célébration de la Sainte Cène est une parole prophétique, et qu'il entre un visiteur incroyant ou un homme quelconque, ne se sentira-t-il pas convaincu de péché et sa conscience ne sera-t-elle pas touchée? Les secrets de son cœur seront mis à nu, Alors il tombera sur sa face en adorant Dieu et s'écriera « Certainement, Dieu est présent au milieu de vous ». On aimerait bien que ça se passe comme ça. Hein ? On voit que cette fonction de la pratique de la Sainte Cène, l'annonce de la mort du Seigneur, rend nécessaire sa célébration publique, sinon nous annonçons ce fait fondamental et glorieux qu'à nous-mêmes. Et Paul continue son commentaire des conséquences de la célébration de la Sainte Cène. Ce sont les versets 27 à 33, où il écrit « C'est pourquoi quiconque mangerait le pain ou boirait la coupe du Seigneur d'une manière indigne se rendrait coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine sérieusement lui-même et qu'alors il mange de ce pain et boive de cette coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner ce qu'est le corps se condamne lui-même en mangeant et en buvant ainsi. C'est pour cette raison qu'il y a parmi vous tant de malades, tant d'infirmes, et qu'un certain nombre sont morts. Si nous discernions ce que nous sommes, ça c'est la traduction du semeur, nous ne tomberions pas sous le jugement. Mais les jugements du Seigneur ont pour but de nous corriger, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le reste du monde. Ainsi donc, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas en commun, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a particulièrement faim, qu'il mange d'abord chez lui, afin que vos réunions n'attirent pas sur vous le jugement de Dieu. Paul dit donc qu'il peut y avoir une manière indigne de participer à la Sainte Cène. Et cette manière indigne résulte de l'absence de discernement de ce qu'est le corps. Est-ce que cela veut dire ne pas être conscient que le geste que nous pratiquons rappelle la mort du Seigneur en sacrifice pour nos péchés ? Il est clair que si c'est le cas, nous pratiquons ce geste indignement. Mais est-ce bien ce que Paul veut dire là dans ce contexte ? Notons que, curieusement, Paul ne parle que du défaut de discerner le corps, sous-entendu du Seigneur, bien sûr, et qu'il ne parle pas du sang, alors que les deux éléments sont tout à fait liés dans le repas du Seigneur. Il me semble que le verset 31 nous fait discerner un autre sens qui cadre avec ce que Paul veut reprendre chez les Corinthiens dans ce passage. Donc je vous relis ce verset 31 dans la version du semeur. « Si nous discernions ce que nous sommes, nous ne tomberions pas sous le jugement. » Vous avez probablement d'autres traductions sous les yeux. Si vous avez Darby ou Second, vous pouvez lire. « Mais si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. » Vous voyez une différence de traduction assez nette. Darby et Second utilisent dans les deux parties de la proposition le même verbe « juger ». Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Alors que les traducteurs de la version du semeur utilisent le verbe discerner dans la première partie de la phrase et juger dans la seconde. Alors est-ce que le texte grec utilise le même verbe ou deux verbes différents ? Eh bien, il s'agit bien de deux verbes différents, bien que proches, mais deux verbes différents. Dans la première partie, le verbe s'appelle diakrino, hein, comme ça, qui signifie distinguer, discerner. C'est d'ailleurs ce sens qui s'impose au verset 29, rappelez-vous. Celui qui mange et boit sans discerner ce qu'est le corps, et non pas juger ce qu'est le corps, ça ne voudrait rien dire, hein, se condamne lui-même en mangeant et buvant ainsi. Dans la deuxième partie de la phrase, c'est le verbe crino, donc c'est très proche, hein, diacrino, crino. Mais il n'y a pas le préfixe dia, qui signifie simplement juger avec le sens de condamnation. Donc revenons à notre verset 31, « Si nous discernions ce que nous sommes, ou bien si nous nous discernions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. » L'objet du verbe diacrino, discerner, c'est donc le corps du verset 29, que Paul identifie au « nous-mêmes » du verset 31. Et c'est tout à fait logique puisque l'Église est le corps de Christ. Alors comment comprendre la pensée de Paul dans ce contexte d'excès de table et de conduite indigne de la part de certains Corinthiens lors de leur repas communautaire? Il me semble que ce que Paul fustige ici, c'est l'absence de discernement, de prise en compte du corps de Christ, c'est-à-dire des frères et sœurs que l'on méprise en ne les attendant pas pour manger, en ne partageant pas avec eux, avec ceux qui n'ont rien, et donc en les humiliant parce qu'ils sont pauvres. Et on voit que les conséquences de cette négligence sont sévères, maladies et même décès prématurés. Car le Seigneur juge et châtie ceux qui se comportent ainsi. Cela fait partie de sa pédagogie Et ces châtiments sont administrés par le Seigneur pour que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ils ont donc vraiment une fonction d'avertissement. Ainsi, si je comprends bien ce texte, participer indignement à la scène du Seigneur, ce n'est pas atteindre un degré de sainteté compatible avec cette pratique, parce qu'alors qui serait digne? Ce n'est pas non plus s'adonner à une introspection morbide de notre état de pécheur qui ne peut que nous condamner. Que chacun s'examine soi-même et qu'ainsi il mange et boive. C'est-à-dire que chacun examine son comportement vis-à-vis de ses frères et sœurs, que chacun voit pour lui-même si l'attention qu'il porte aux autres correspond à ce que veut le Seigneur. Si son attitude de cœur démontre cette unité que proclame le pain unique que nous partageons. Alors, que pouvons-nous conclure de ces deux lectures? D'abord, que prendre la Sainte Cène, c'est non seulement nous remémorer avec émotion et adoration jusqu'où le Seigneur Jésus est allé par amour pour les pauvres pécheurs que nous sommes, afin d'effacer nos péchés et la condamnation que nous méritions. Le fait de manger de ce pain et de boire de cette coupe nous rappelle notre union avec lui. Et comme Paul l'écrit en Romains 8, verset 1, « Maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. » Merveilleuse et glorieuse vérité. Ensuite, que par ce geste, nous annonçons la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Et si nous l'annonçons, c'est à ceux qui n'ont pas encore reçu et saisi par la foi cette extraordinaire bonne nouvelle qui est à la portée de tous, moyennant la repentance et la foi. C'est à nos enfants et à tout un converti qui assiste à nos réunions. Et enfin, que ce geste, et particulièrement s'il s'accompagne d'un repas, est un acte nécessairement communautaire. Ce n'est pas une affaire entre moi et mon Seigneur seulement. Je ne peux pas faire abstraction de mes frères et sœurs, sinon j'en dénature le sens. Mes frères et mes sœurs, le corps mystique de Christ, doivent être l'objet de toute mon attention, de tous mes égards, de tout mon amour. Et c'est ainsi que je prends part à ce mémorial et à cette annonce dignement, c'est-à-dire dans l'état d'esprit et le comportement que le Seigneur est en droit d'attendre de moi.